Examen de 12e. Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Marie-Cécile Zinsou, pouvez-vous nous présenter votre fondation? Quand l'avez-vous créée? Où est-elle?
La fondation Zinsou est une fondation béninoise que j'ai créée avec ma famille en juin 2005. C'est une fondation qui est née du constat que la création africaine aujourd'hui était une sorte de métaphore de l'Afrique. On a voulu présenter l'excellence de la création africaine sur le continent africain. Pour une simple et bonne raison, c'est que pendant longtemps on a vu des expositions magnifiques d'art africain en Europe, aux États-Unis, maintenant en Asie. Et malheureusement, le seul endroit où on n'a pas accès à cette culture, c'est l'Afrique. On voit très peu d'artistes et notamment pas les artistes contemporains.
Y compris dans les grandes villes africaines?
Les grandes villes africaines ne sont pas forcément dotées de musées, à l'exception de certaines villes d'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud à Johannesburg, mais sinon très peu diffusées pour une raison simple, c'est que nous avons des pays qui sont souvent parmi les plus pauvres, donc ils sont en développement. On connaît une croissance absolument gigantesque, on a des croissances de 7-8% par an les années moyennes, mais il y a beaucoup d'urgence et du coup l'urgence artistique, l'urgence de la création n'est pas forcément la première pour des gouvernements. Un hôpital sera toujours plus urgent qu'un musée. Donc pour l'instant, les États africains ont tendance à se concentrer sur les urgences. Nous sommes dit qu'en tant que privé, il était important de faire connaître cette création à la jeunesse africaine.
Comment ça se traduit concrètement, l'émission de votre fondation? Est-ce qu'elle a un musée? Est-ce qu'elle a un lieu?
La fondation s'est dotée d'une structure de 3000 m² aux normes internationales qui nous a permis par exemple de recevoir les œuvres du musée du Quai Branly quand ils ont souhaité faire partager les œuvres venues d'Afrique en Afrique sur le continent au Bénin. Nous sommes vraiment équipés comme n'importe quel musée international, quel que soit le continent. On a créé cette structure et nous avons aussi des structures dans tout le sud du Bénin, des structures itinérantes. Nous faisons voyager les expositions au cœur des écoles, au cœur des ONG, au cœur des grandes places publiques pour que le public soit partout au contact de l'art et qu'il n'y ait aucune barrière sociale. Toute notre action est gratuite. C'est un des points fondamentaux, que ce soit l'initiation artistique pour les enfants ou que ce soit les expositions. On fait même des publications gratuites pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les catalogues mais qui ont un réel besoin, une réelle demande de publications scientifiques. On a vraiment décidé de la gratuité, ce qui nous permet d'avoir d'ailleurs un public extrêmement important puisque nous sommes un pays, le Bénin, de 8 millions d'habitants et nous avons 1 million de visiteurs par an.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Marie-Cécile Zinsou, pouvez-vous nous présenter votre fondation? Quand l'avez-vous créée? Où est-elle?
La fondation Zinsou est une fondation béninoise que j'ai créée avec ma famille en juin 2005. C'est une fondation qui est née du constat que la création africaine aujourd'hui était une sorte de métaphore de l'Afrique. On a voulu présenter l'excellence de la création africaine sur le continent africain. Pour une simple et bonne raison, c'est que pendant longtemps, on a vu des expositions magnifiques d'art africain en Europe, aux États-Unis, maintenant en Asie. Et malheureusement, le seul endroit où on n'a pas accès à cette culture, c'est l'Afrique. On voit très peu d'artistes et notamment pas les artistes contemporains.
Y compris dans les grandes villes africaines?
Les grandes villes africaines ne sont pas forcément dotées de musées, à l'exception de certaines villes d'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud à Johannesburg, mais sinon très peu diffusées pour une raison simple, c'est que nous avons des pays qui sont souvent parmi les plus pauvres, donc ils sont en développement. On connaît une croissance absolument gigantesque, on a des croissances de 7-8% par an les années moyennes, mais il y a beaucoup d'urgence et du coup l'urgence artistique, l'urgence de la création n'est pas forcément la première pour des gouvernements. Un hôpital sera toujours plus urgent qu'un musée. Donc pour l'instant, les États africains ont tendance à se concentrer sur les urgences. Nous sommes dit qu'en tant que privé, il était important de faire connaître cette création à la jeunesse africaine.
Comment ça se traduit concrètement, les missions de votre fondation? Est-ce qu'elle a un musée? Est-ce qu'elle a un lieu?
La fondation s'est dotée d'une structure de 3000 m² aux normes internationales qui nous a permis par exemple de recevoir les œuvres du musée du Quai Branly quand ils ont souhaité faire partager les œuvres venues d'Afrique en Afrique sur le continent au Bénin. Nous sommes vraiment équipés comme n'importe quel musée international quel que soit le continent. On a créé cette structure et nous avons aussi des structures dans tout le sud du Bénin, des structures itinérantes. Nous faisons voyager les expositions au cœur des écoles, au cœur des ONG, au cœur des grandes places publiques pour que le public soit partout au contact de l'art et qu'il n'y ait aucune barrière sociale. Toute notre action est gratuite. C'est un des points fondamentaux, que ce soit l'initiation artistique pour les enfants ou que ce soit les expositions. On fait même des publications gratuites pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les catalogues mais qui ont un réel besoin, une réelle demande de publications scientifiques. On a vraiment décidé de la gratuité, ce qui nous permet d'avoir d'ailleurs un public extrêmement important puisque nous sommes un pays, le Bénin, de 8 millions d'habitants et nous avons 1 million de visiteurs par an.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. première écoute.
Est-ce que culture et télévision sont vraiment compatibles et à quel prix ? Et quelle culture ? Parce que si on pense à un académicien comme Jean Clerc qui pense que la culture connaît aujourd'hui un hiver.
La télévision, c'est pas la culture, c'est un outil. Et c'est un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut se mettre au service de la culture. Je lisais récemment une étude qui faisait part de l'importance de cet outil télévisuel pour les Français. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au cinéma. Il y a beaucoup de Français qui ne lisent pas de livres, ou en tout cas pas les livres qu'on espérait qu'ils puissent lire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir l'exposition, qui ne vont pas à l'opéra, etc., au théâtre. Ils regardent prioritairement la télévision parce que c'est leur seul moyen de sortir de chez eux.
La culture doit être partagée.
Voilà, et donc il faut que nous prenions conscience de ça. Et que ce moyen audiovisuel soit un outil indispensable de notre politique culturelle générale pour ce pays. Voilà. Il ne faut pas laisser la télévision dite de service public en dehors de ces préoccupations-là. Je pense qu'on a un devoir, on a des missions, et je pense que c'est très important pour le pays, pour les gens. Vous vous rendez compte que quand on a posé cette question aux Français, quel est le mode culturel que vous n'êtes surtout pas prêt à céder, à voir partir ? On ne dit pas le livre, on ne dit pas le théâtre, on ne dit pas le cinéma, on dit la télévision. On ne peut pas se passer de la télévision. Il y a 64% de Français, je crois, qui répondent comme cela. Donc, c'est là où on se dit c'est essentiel. Et c'est essentiel d'essayer de promouvoir les artistes à travers la télévision, d'orienter les projecteurs dans tel ou tel secteur, de faire des émissions intelligente et intelligible. Voilà. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire à travers mon métier, c'est de rendre intelligible l'intelligence.
En tant que membre de l'Académie des Beaux-Arts, quelle est votre vision de l'art dans la société d'aujourd'hui ?
Difficile en quelques mots. En tout cas, je dirais que l'art est une nécessité. C'est l'air qu'on respire. C'est quelque chose d'éminemment nécessaire. Et je crois que tout ce qui peut être fait pour l'art est fait pour le bonheur de l'être humain. Je pense que l'être humain a besoin d'art pour à la fois se projeter dans la vie, dans la société, et peut-être aussi et surtout pour se retrouver soi-même. Je pense que l'art a cette vertu de vous ramener à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, à vos émotions intimes, à cet univers intérieur qu'est l'être, et puis à devenir universel. Je m'explique, il est la clé de votre intériorité et de votre universalité. L'intériorité, c'est-à-dire qu'il vous apprend à vous connaître, à aller chercher en vous les émotions, pourquoi vous êtes ému par telle peinture, par telle sculpture. Donc comprendre ce qui vous émeut, aller chercher en vous ces clés-là. Et puis, il est universel, il vous donne ce sentiment d'universalité parce que ces émotions sont partagées, ces émotions peuvent être collectives, et donc à un moment donné, ce collectif-là devient universel. Et c'est ce rapport-là entre l'universalité et l'intériorité qui me plaît et qui m'anime.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Est-ce que culture et télévision sont vraiment compatibles et à quel prix ? Et quelle culture ? Parce que si on pense à un académicien comme Jean Clerc qui pense que la culture connaît aujourd'hui un hiver.
La télévision, c'est pas la culture, c'est un outil. Et c'est un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut se mettre au service de la culture. Je lisais récemment une étude qui faisait part de l'importance de cet outil télévisuel pour les Français. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au cinéma. Il y a beaucoup de Français qui ne lisent pas de livres, ou en tout cas pas les livres qu'on espérait qu'ils puissent lire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir l'exposition, qui ne vont pas à l'opéra, etc., au théâtre. Ils regardent prioritairement la télévision parce que c'est leur seul moyen de sortir de chez eux.
La culture doit être partagée.
Voilà, et donc il faut que nous prenions conscience de ça et que ce moyen audiovisuel soit un outil indispensable de notre politique culturelle générale pour ce pays. Voilà. Il ne faut pas laisser la télévision dite de service public en dehors de ces préoccupations-là. Je pense qu'on a un devoir, on a des missions, et je pense que c'est très important pour le pays, pour les gens. Vous vous rendez compte que quand on a posé cette question aux Français, quel est le mode culturel que vous n'êtes surtout pas prêt à céder, à voir partir? On dit pas le livre, on dit pas le théâtre, on dit pas le cinéma, on dit la télévision. On ne peut pas se passer de la télévision. Il y a 64% de Français, je crois, qui répondent comme cela. Donc, c'est là où on se dit c'est essentiel. Et c'est essentiel d'essayer de promouvoir les artistes à travers la télévision, d'orienter les projecteurs dans tel ou tel secteur, de faire des émissions intelligentes et intelligibles. Voilà. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire à travers mon métier, c'est de rendre intelligible l'intelligence.
En tant que membre de l'Académie des Beaux-Arts, quelle est votre vision de l'art dans la société d'aujourd'hui ?
Difficile en quelques mots. En tout cas, je dirais que l'art est une nécessité. C'est l'air qu'on respire. C'est quelque chose d'éminemment nécessaire. Et je crois que tout ce qui peut être fait pour l'art est fait pour le bonheur de l'être humain. Je pense que l'être humain a besoin d'art pour à la fois se projeter dans la vie, dans la société, et peut-être aussi et surtout pour se retrouver soi-même. Je pense que l'art a cette vertu de vous ramener à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, à vos émotions intimes, à cet univers intérieur qu'est l'être, et puis à devenir universel. Je m'explique, il est la clé de votre intériorité et de votre universalité. L'intériorité, c'est-à-dire qu'il vous apprend à vous connaître, à aller chercher en vous les émotions, pourquoi vous êtes ému par telle peinture, par telle sculpture. Donc comprendre ce qui vous émeut, aller chercher en vous ces clés-là. Et puis, il est universel, il vous donne ce sentiment d'universalité parce que ces émotions sont partagées, ces émotions peuvent être collectives, et donc à un moment donné, ce collectif-là devient universel. Et c'est ce rapport-là entre l'universalité et l'intériorité qui me plaît et qui m'anime.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
La Fontaine n'est pas un inventeur de la fable en général. Il invente simplement la fable moderne. Et vos traductions montrent comment il a imité et surtout enrichi ses sources antiques. Vous avez traduit vous-même Ésope, Phèdre, Horace, Abstinius. C'est très important de pouvoir lire les fables qui ont inspiré La Fontaine. Il a quand même fait un travail important pour donner des détails, un rythme que, effectivement, ses sources antiques n'avaient pas. On sent du souffle et des dialogues.
Bien entendu, La Fontaine a transformé la fable, le simple apologue grec ou latin, La Fontaine en a fait une espèce de petite pièce de théâtre, associée parfois à un conte, avec des formes qui sont les siennes, c'est-à-dire que La Fontaine a choisi la fable, le genre mineur, parce que c'est un genre qui permet toutes les audaces, et c'est pas très codifié. Au moment où il commence à faire des fables, l'art classique est en train de commencer à s'installer dans les mœurs et dans les mentalités, et aussi entre autres du fait de la prise de pouvoir de Louis XIV qui va imposer des formes artistiques. La Fontaine est dans une autre esthétique, il est plus âgé, il sort du baroque, il est plus dans une esthétique du joli que dans une esthétique du beau. C'est-à-dire La Fontaine est plus du côté de l'élégance que de la majesté. Ce qui explique qu'il va pouvoir s'en donner à cœur joie, et entre autres par exemple faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant lui, c'est faire des fables en vers en français. Il est celui qui introduit le vers dans la fable en France, en vérité. Même s'il y a eu 2-3 fabulistes qui l'ont précédé, la plupart ont écrit à peu près tout le temps en prose, et lui, il écrit en vers. Mais il écrit en vers libre, pour l'époque. La Fontaine mélange, dans une même fable, un octosyllabe, un décasyllabe, un alexandrin. Au niveau des rimes, c'est un chaos complet. Il peut très bien commencer avec des rimes plates, suivre avec des rimes croisées, finir avec des rimes embrassées. Et même parfois, il y a des vers en l'air qui n'ont pas de rime, avec rien du tout.
Oui, parce que c'est toujours le rythme. C'est à lire. C'est un travail d'oralité.
Ça, c'est bien vrai, ça. Et d'ailleurs, la célébrité de La Fontaine, elle est liée à ce que vous dites. C'est-à-dire que la plupart des Français à l'époque, en tout cas une très grande partie des Français, ne savaient pas lire, mais ils apprenaient les fables de La Fontaine oralement de ceux qui savaient les lire. Ainsi, dans les cafés, dans les auberges, on lisait les fables de La Fontaine, et ces fables étaient apprises par cœur par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple français s'est emparé de la fable de La Fontaine. Et ça explique aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'alors que c'était un homme qui avait beaucoup d'ennuis avec le pouvoir royal de Louis XIV, donc du fait de ce succès, il est revenu en grâce, ou à peu près, ou en tout cas il a eu le droit de repointer son nez, parce que il était devenu incontournable. C'est-à-dire que c'était devenu un grand auteur célèbre et populaire à partir des années 1670.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
La Fontaine n'est pas un inventeur de la fable en général, il invente simplement la fable moderne. Et vos traductions montrent comment il a imité et surtout enrichi ses sources antiques. Vous avez traduit vous-même Ésope, Phèdre, Horace, Abstinius. C'est très important de pouvoir lire les fables qui ont inspiré La Fontaine. Il a quand même fait un travail important pour donner des détails, un rythme que, effectivement, ses sources antiques n'avaient pas. On sent du souffle et des dialogues.
Bien entendu, La Fontaine a transformé la fable, le simple apologue grec ou latin. La Fontaine en a fait une espèce de petite pièce de théâtre, associée parfois à un conte, avec des formes qui sont les siennes. C'est-à-dire que La Fontaine a choisi la fable, le genre mineur, parce que c'est un genre qui permet toutes les audaces, et c'est pas très codifié. Au moment où il commence à faire des fables, l'art classique est en train de commencer à s'installer dans les mœurs et dans les mentalités, et aussi entre autres du fait de la prise de pouvoir de Louis XIV qui va imposer des formes artistiques. La Fontaine est dans une autre esthétique, il est plus âgé, il sort du baroque, il est plus dans une esthétique du joli que dans une esthétique du beau. C'est-à-dire La Fontaine est plus du côté de l'élégance que de la majesté. Ce qui explique qu'il va pouvoir s'en donner à cœur joie, et entre autres par exemple faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant lui, c'est faire des fables en vers, en français. Il est celui qui introduit le vers dans la fable en France, en vérité. Même s'il y a eu 2-3 fabulistes qui l'ont précédé, la plupart ont écrit à peu près tout le temps en prose, et lui, il écrit en vers. Mais il écrit en vers libre, pour l'époque. La Fontaine mélange, dans une même fable, un octosyllabe, un décasyllabe, un alexandrin. Au niveau des rimes, c'est un chaos complet. Il peut très bien commencer avec des rimes plates, suivre avec des rimes croisées, finir avec des rimes embrassées. Et même parfois, il y a des vers en l'air qui n'ont pas de rime, avec rien du tout.
Oui, parce que c'est toujours le rythme. C'est à lire. C'est un travail d'oralité.
Ça, c'est bien vrai, ça. Et d'ailleurs, la célébrité de La Fontaine, elle est liée à ce que vous dites. C'est-à-dire que la plupart des Français à l'époque, en tout cas une très grande partie des Français, ne savaient pas lire, mais ils apprenaient les fables de La Fontaine oralement de ceux qui savaient les lire. Ainsi, dans les cafés, dans les auberges, on lisait les fables de La Fontaine, et ces fables étaient apprises par cœur par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple français s'est emparé de la fable de La Fontaine. Et ça explique aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'alors que c'était un homme qui avait beaucoup d'ennuis avec le pouvoir royal de Louis XIV, donc du fait de ce succès, il est revenu en grâce, ou à peu près, ou en tout cas il a eu le droit de repointer son nez, parce que il était devenu incontournable. C'est-à-dire que c'était devenu un grand auteur célèbre et populaire à partir des années 1670.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.